Voilà, on essaie de mettre la main sur M. Daniel Jean, mais c'est un homme occupé. Peut-être nous rejoindra-t-il dans quelques minutes, mais on peut certainement discuter ensemble. On va parler du programme de revenus de base, qui est une avancée majeure pour les personnes handicapées ayant des contraintes sévères à l'emploi. Et ce programme qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2023, là, dans deux mois d'ici, le programme de revenus de base s'adresse à des personnes qui ne peuvent pas travailler, qui ont des contraintes sévères et de longue durée. On parle donc de gens, selon la définition, qui ont entre 18 et 65 ans. Ça permettra d'avoir un revenu de base plus élevé. Alors, vous pourrez gagner plus d'argent en travaillant sans que cela modifie le montant de votre prestation de solidarité. Vous pourrez donc disposer aussi de plus de biens et de plus d'argent pour avant que votre prestation n'en soit diminuée. On pense que 84 000 personnes au Québec pourront bénéficier du programme. Et ne vous alertez pas, vous devriez avoir déjà reçu une lettre, sinon vous la recevrez bientôt. Et votre participation au programme se fait automatiquement. C'est basé sur vos déclarations de revenus des années antérieures. Et en conséquence, évidemment, ça nous rappelle qu'il importe de faire une déclaration de revenus, non seulement pour vous, mais pour votre conjoint, votre conjointe. Le programme sera complété par l'assouplissement de certaines règles appliquées dans le cadre en ce moment du programme de solidarité sociale. On prévoit effectivement que si vous avez accumulé des biens, ben on vous pénalisera pas en conséquence. Le règlement prévoit qu'une personne sera admissible au programme de revenus de base lorsque depuis au moins 66 des 72 derniers mois, ça, en gros, ça veut dire 5 ans et demi au cours des 6 dernières années, elle présente des contraintes sévères à l'emploi et bénéficie du programme de solidarité sociale. Ce qui est bien, cependant, c'est que pour les jeunes adultes, on va être capable de remonter et de faire une participation immédiate pour un jeune qui vient d'atteindre 18 ans. Il n'y aura pas besoin d'attendre 24 ans pour être admis au programme. Une particularité, en effet, concerne les enfants handicapés dont les parents ont bénéficié du supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels, le SEHNSE, qu'on connaît bien. Les mois au cours desquels ont été admis au programme pour les enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels seront pris en compte dans le calcul des 66, des 72 derniers mois. Alors, le fait que l'enfant était et sa famille était admissible au programme, au moment où il atteint l'âge de 18 ans, l'enfant pourra donc immédiatement devenir admissible au programme de revenus de base dès ses 18 ans. Alors ça, ouf, une chance, parce que souvent, il y a comme une marge entre la minorité et la majorité dans les programmes pour les personnes en situation de handicap. Et au moins cette fois-ci, ça a été bien prévu. Le programme de revenus de base s'écarte du modèle traditionnel d'aide financière de dernier recours. Et ça, c'est évidemment, conceptuellement, c'est assez important. Et pour en parler justement de cet aspect conceptuel, ça nous intéresse au premier chef. On va parler maintenant à M. Daniel Jean qu'on a en ligne. Bonjour, M. Jean.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien vous-même. Content que vous puissiez être des nôtres. J'étais en train de décrire aux auditeurs le programme de revenus de base. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que ça s'écarte du modèle traditionnel d'aide financière parce que, en fait, ça favorise l'autonomie.
Oui, ça favorise l'autonomie des personnes. Ce qu'on visait par la conception de ce programme-là, et l'Office était impliqué dès le début de la conception du programme, c'est porté par le ministère Emploi et Solidarité sociale. Et à l'époque, moi, j'étais gestionnaire de cette équipe-là qui réfléchissait à cette problématique-là. L'idée, c'est de favoriser la participation sociale des personnes handicapées. Donc, c'est pas parce que t'as un enjeu au niveau de l'accès au travail en fonction de certaines particularités qu'on ne peut pas tout faire pour favoriser la participation sociale. C'est que le programme a été réfléchi dans cette logique-là.
Oui, tout à fait. Et c'est l'aide financière est une approche dans ce sens-là qui est individuelle. On va même ne pas tenir en compte les revenus de la personne avec qui le prestataire ou la prestataire pourrait vivre. Donc, le conjoint ou la conjointe n'est pas immédiatement dans le calcul. Et ce qu'on appelle en France la déconjugalisation, hein, c'est un joli terme, de la prestation, mais ça aussi, ça a une importance en termes d'autonomie.
Oui, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte le revenu de la personne, mais quand ça va excéder le double de ce que va recevoir la personne sur le programme revenu de base, donc 28 000 $ Là, on va prendre en compte et il faut se rendre, pour que le conjoint ait de mémoire là, un montant de l'ordre de 70 000 $ pour exclure complètement du programme.
Donc, exact.
Il y a un effort qui a été fait, effectivement, pour favoriser la vie maritale.
Oui, parce que c'était malheureux dans le passé. Les gens, parfois, avaient des choix difficiles à faire. Moi, je connais des gens qui sont en couple, mais qui n'habitent pas ensemble. Exactement pour cette raison-là, parce que ça menaçait pour les deux leur accès à la prestation, et pourtant les deux travaillent, mais là, ça compliquait les choses, et c'était et dans les cas de situation où un des deux conjoints est en une situation d'handicap et l'autre non, mais là, ça créait aussi une certaine dépendance officialisée qui était malsaine.
C'est ça. Ça nous permet de aussi venir capter donc cette réalité-là de la vie maritale. On a pu y trouver une réponse, je pense, qui permet d'avancer dans la bonne direction. Il y a aussi le fait qu'il y a des personnes qu'on va considérer comme contraintes salaires à l'emploi. C'est-à-dire qu'on va dire que la personne ne peut pas travailler à temps plein en fonction de sa condition, mais qu'elle aurait le goût de travailler quand même et de contribuer à la société. On l'a vu par des exemples, les personnes qui faisaient du bénévolat, ils étaient capables de le faire. Mais quand on tombe dans un salaire, j'allais dire rémunération, j'ai de la misère à le prononcer comme il faut.
Rémunération, voilà. Il faut le dire vite, comme ça, ça passe tout seul.
Ça passe tout seul. Mais l'idée, c'est que ça amenait toutes sortes d'enjeux au niveau des prestations. Là, ce qu'on vient de faire avec ce programme-là, c'est qu'on vient de dire, ben, tu peux travailler, puis tu peux avoir des revenus, puis encore là, il faut que tu dépasses le seuil du 28 000 pour que ça ait une incidence. Donc, ça permet de travailler à temps partiel, de faire une contribution. Puis si la personne travaille à temps plein puis que, dans le fond, elle n'a plus de prestations à recevoir puis qu'elle a une autonomie financière, bravo. Mais exact. Elle va pouvoir revenir au programme aussitôt qu'elle va avoir des enjeux de santé. Donc, on vient d'assurer une certaine protection dans une logique de participation sociale.
Tout à fait. En fait, les revenus de travail ne seront pas considérés jusqu'à hauteur de 13 656 $ et ce montant-là va être indexé. Mais au-dessus de 13 656, c'est 55 cents du dollar de la prestation qui sera perdue. Donc, si on fait le calcul, on arrive à 28 000. Ce qui est important aussi, c'est que les personnes pourront accumuler des biens. Les avoirs liquides du prestataire seront exclus jusqu'à concurrence de 20 000. La valeur des biens de la personne aussi, jusqu'à concurrence de 500 000, ce qui est assez élevé. Et ça permet, dans ce sens-là, d'avoir un régime enregistré d'épargne invalidité, entre autres. Puis la valeur de la résidence aussi, parce qu'il y a des maisons qui se sont appréciées, là, et pourtant, il faut bien vivre quelque part.
Oui, puis ça prend en compte aussi toute la question de l'adaptation du domicile ou de la maison, dans certains cas, qui a amené une augmentation de la valeur. Ça tient en compte aussi un enjeu important intergénérationnel. Imaginez que vous êtes un parent et que vous avez votre enfant qui est devenu adulte. Vous aimeriez lui laisser la maison dans laquelle chacun demeure pour éventuellement que ça devienne la maison de votre enfant. Bien là, maintenant, c'est possible. Donc,
exact.
On assure aussi ce maintien dans la communauté, donc éviter l'hébergement, puis en même temps, un transfert du patrimoine intergénérationnel.
Tout à fait. Alors, en fait, c'est beaucoup plus une intégration qu'un filet social, ce qui est offert. Et l'OPHQ y a travaillé dès le début.
Oui, et on avait des enjeux. Tu sais, les gens peuvent des fois soulever des questions puis dire comment ça qu'on est là, mais il n'y a pas d'évaluation objective à l'heure actuelle pour dire c'est quoi une contrainte sévère à l'emploi. Donc, avant, on y allait par une approche diagnostique. On disait quand une personne a tel diagnostic, elle pourrait contrainte sévère à l'emploi. Mais on connaît tous des personnes qui disaient, moi, j'ai le diagnostic, mais j'ai le goût de travailler. Moi, j'ai le goût de contribuer. Pourquoi qu'on me condamne d'avance? Donc, le 66 mois sur 72, c'est une mesure actuellement transitoire, mais il faut rappeler que le ministère emploi et solidarité sociale a fait un appel de recherche pour justement développer un outil qui viendrait capter maintenant, non pas le diagnostic de la personne, mais ses capacités. Parce qu'on sait que les personnes handicapées ont des capacités. C'est
tout
ça qu'on
fait.
Doit mesurer. Et dans le fond, ceux qui ne peuvent pas travailler à temps plein ont un programme qui les assure de sortir de la pauvreté. Et pour ça, il faut qu'ils aient aussi les autres crédits d'impôt. Il faut demander les crédits d'impôt. Puis on sait que les personnes handicapées ne demandent pas tous les crédits d'impôt. Si je peux passer un message, oui, bravo pour le programme revenu base, mais allez chercher aussi les crédits d'impôt qu'elles
ont. Oui. Ben, tout à fait. Et d'abord, il faut produire une déclaration de revenus. Ça commence par ça. Mais le fait de travailler peut aussi, comme vous le dites, donner accès à d'autres crédits d'impôt, à d'autres allègements fiscaux. Et parfois, on a l'impression que les outils sont là, mais c'est comme si le coffre à outils n'était pas utilisé pleinement. Et dans ce sens-là, il y a certainement une mission de renseignement et d'aide que l'OPHQ aussi remplit. Mais encore, il faut aller sur le site, puis il faut aller voir. 2023 va être une année avec d'autres chantiers à l'OPHQ?
Oui, ben on travaille sur le projet de simplification qui vise à rendre ça plus fluide, l'accès au programme mesures et services, essayer de mettre en place un formulaire qui va réduire le recours à des démarches médicales pour démontrer qu'on est une personne qui vit en situation de handicap. Donc, on travaille beaucoup cet élément-là. On fait avancer aussi l'autre chantier, l'autre mandat que le ministre nous a donné, le projet qui vise à mesurer l'écart entre les besoins répondus dans le cadre des programmes gouvernementaux puis le financement. Donc, puis d'apporter des pistes de solutions là-dessus. C'est 2023, c'est une grosse année aussi.
Oui, bien tout à fait. Pour ce qui est des embûches administratives, c'est un peu ça qui parfois empêche les personnes en situation d'handicap d'accéder à tous les programmes, à tout ce qu'il peut y avoir comme outil pour les aider. C'est parce que parfois, ça rebute beaucoup. Il y a eu des efforts de simplification pour l'obtention du crédit pour personnes handicapées au fédéral, mais parfois, c'est pas si simple. On a vu qu'au Québec, l'adhésion à ce crédit-là était un peu à la traîne par rapport aux autres provinces canadiennes. On semble, au Québec, avoir moins de personnes handicapées, ce qui, finalement, fait aucun sens parce que notre population n'est pas différente.
Oui, mais c'est intéressant, cet effet-là. Moi, j'ai posé des questions dans le cadre d'un forum qu'il y a eu à l'automne par Finotomie, un organisme communautaire qui fait une action intéressante. J'ai posé des questions, moi, à Statistique Canada. Et ce qu'on me dit, c'est que, dans les faits, c'est les francophones du Canada qui déclarent pas vraiment leurs conditions de personnes en situation d'handicap. Donc, vu qu'il y a plus de francophones au Québec, ça paraît plus.
D'accord.
On a la même réalité en Ontario et au Manitoba. Donc, ça, j'ai été surpris. Et je pense que c'est un chantier qu'on va travailler avec les organismes communautaires. On va essayer de trouver des voies de passage. Il y a quelque chose à faire, là, parce que les gens s'auto-déclarent pas personnes en situation d'handicap, et là, ils perdent des crédits. Fait que là, il y a un enjeu.
D'accord. Il y a comme une sorte de barrière culturelle où peut-être le mot est plus stigmatisant, ou peut-être le mot sous-entend, handicap sous-entend dans l'esprit des gens une situation, entre guillemets, pire que la leur. Pourtant, leur situation actuelle leur permettrait déjà de se prévaloir du soutien de l'État.
Oui, il y a une question de perception, ça c'est clair. Vous mettez le doigt sur quelque chose, je pense. Et là, il va falloir travailler là-dessus.
Ben, comme on dit, vous pouvez vous retrousser les manches, M. Daniel Jean, à l'OPHQ, parce que vous ne manquerez pas de travail et de chantier. On a hâte de vous reparler plus tard, voir les avancées que vous aurez pu faire dans ce sens-là. Mais au moins, le programme de revenus de base, voilà une avancée qui est une bonne nouvelle. Et ça fait du bien.
Oui, effectivement.
Merci.
Plaisir.